France Culture, la salle des machines, Mathias Sénard.
Exploration des moteurs, des engrenages de la littérature d'aujourd'hui. Écoutons le concert des bielles de la fiction, les pistons du récit. Tour à tour autrice, traducteur, mais aussi dessinatrice ou scénariste de bande dessinée nous font visiter leur salle des machines, nous ouvrent leur moteur et nous expliquent comment elles et ils plongent les mains dans le cambouis. De quelle façon on met à la voile, ou même, de temps en temps, à la rame. Comme disait Blaise Cendrars à bord du paquebot Normandie, je les verrai à l'œuvre dans les fonds, les soutiers, les huileurs, les graisseurs, les mécanos, tous les gars de la machine. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Jean-Marie Blaise de Robles pour le roman « Ceux qu'ici-bas nous sommes » qui vient de paraître aux éditions Zulma. Un écrivain plongeur sous-marin pour cette première salle des machines. Et en deuxième partie, Diane Meur, romancière et traductrice qui signe « Sous le ciel des hommes » chez Sabine Vespizer. Entre les deux, notre section « Cailloux dans les poches » sera consacrée à une nouvelle de Desio Costolani. Et en toute fin d'émission, nous fêterons l'arrivée d'un nouvel auteur qui nous fera parvenir son message par le transmetteur d'ordre de la salle des machines, j'ai nommé Hugo Lindenberg.
Aujourd'hui, la question des droits de l'homme ne se pose pas. La Libye est arrivée à bon port en instaurant la démocratie populaire directe. Il n'y a pas d'élection en Libye parce que les Libyens n'élisent pas leurs dirigeants. Ce sont les Libyens qui se dirigent eux-mêmes. Il n'y a pas de prisonniers politiques en Libye. Celui qui prétend cela qu'il se rend en Libye et qu'il cherche, il n'y a pas un seul prisonnier politique en Libye.
Bienvenue Jean-Marie Blaise de Robles. Vous reconnaissez cette voix ?
Je la reconnais, oui, pour être un vieux Libyen moi-même, après toutes ces années d'archéologie en Libye. Bien des années ont passé, et de tristes années depuis 2011.
C'est effectivement donc Mouammar Kadhafi qu'on vient d'entendre, le conquérant de septembre, célèbre dictateur libyen, qui ignorait apparemment l'oasis de Zendane, hein, où on peut se retrouver prisonnier. Jean-Marie Blaise de Robles, vous êtes né en Algérie, vous avez vécu au Brésil, en Chine. Vous avez longtemps séjourné en Libye, où vous avez exercé le fascinant métier d'archéologue sous-marin, notamment en Cyrénaïque. Vous êtes depuis romancier, un romancier démesuré et célébré. Là où les tigres sont chez eux, roman paru en 2008, vous a valu le prix Médicis. De nombreux livres ont suivi, des romans, de la poésie, mais aussi un magnifique essai dans la prestigieuse collection Terre humaine des éditions Plomb, un essai consacré à la Libye, dans les pas de l'orientaliste du début du XIXe siècle, Jean-Raymond Pachot. Vous nous revenez aujourd'hui avec un roman, lui aussi en partie libyen, « Ceux qu'ici-bas nous sommes », situé dans une étrange oasis perdue du désert de Libye, la mystérieuse Zindane, un roman de la démesure, de la folie et du mensonge. Et si j'ai tenu à ce que vous inauguriez cette salle des machines, c'est justement pour la placer sous le signe de la démesure, de l'hybride, du savoir et du mensonge qui fait la littérature. Jean-Marie Blaise de Robles, qu'est-ce que signifie pour vous le mot « aventure » ?
L'aventure, c'est d'abord l'imaginaire pour moi. C'est avant toute aventure réelle, vécue, du genre traversée du désert, effective. Ce sont vraiment les aventures que je m'invente et qui, elles, peuvent être complètement surdimensionnées, complètement surprenantes et laisser la place prépondérante à la liberté.
Alors, je vais résumer en quelques mots ce roman absolument hilarant, tortueux et assez unique en son genre. Donc, en 1982, Augustin Harbourg, donc c'est lui-même qui aujourd'hui nous raconte son histoire, quittait Tripoli un 15 août pour explorer l'ancien royaume des Garamantes, un antique peuple libyen, en compagnie du berbère Hamza Nejma, son guide. Et après plusieurs jours d'errance dans le désert, ils parviennent à une oasis fortifiée nommée Zindan, où on les reçoit au nom du Hajj Hassan, Abu Hassan, Dieu vivant. S'ensuit le récit de l'exploration, la description minutieuse et savante de la ville, de ses habitants et de leurs mœurs très étranges. Ces souvenirs alternent avec les observations d'Augustin Harbourg aujourd'hui, alors qu'il se trouve au Chili, à Lincoln Ray, dans une villa au bord du lac Calafquén, à l'invitation du professeur Binswanger. C'est ça, à peu près, plus ou moins ?
Absolument.
Et j'aimerais vous poser la question de l'origine, un peu de la source de ce livre. Comment est-ce qu'on parvient à une aventure pareille ? Comment est-ce que vous avez eu l'idée de cet Augustin Harbourg et de ces deux récits du même auteur, mais parallèles, hein, d'un côté les souvenirs de l'oasis de Zindan, et de l'autre, cette deuxième partie au bord du lac chilien, de lac Calafquén ?
Ben, c'est assez complexe, dans la mesure où ce sont plus que deux choses qui se sont agglomérées. Il y avait d'abord une vieille idée née dans les années 70 à la lecture de Stephen Hopkins sur les trous noirs. Et j'avais été fasciné par sa phrase où il disait que à peu près tout et n'importe quoi peut sortir d'un trou noir, depuis un poste de télévision jusqu'aux œuvres complètes de Proust reliées en cuir, mais qu'il y avait effectivement une très faible probabilité que ça arrive. Et je m'étais toujours dit que j'écrirais quelque chose à partir d'un personnage qui serait lui-même un trou noir. Et quel meilleur trou noir que d'imaginer une divinité, un dieu vivant dont la masse spirituelle agirait comme un trou noir et aspirerait à elle non seulement ce qui l'entoure, mais dans le cas du livre, la totalité de la mémoire et des cultures humaines. C'est exactement ce qui se passe à Zindan. On a ce personnage, ce Hajj Hassan Abu Hassan, qu'on prend d'abord pour un chaman, mais dont on s'aperçoit qu'il est effectivement Dieu et que sa présence attire les voyageurs de partout et de n'importe quand, parce qu'on peut y arriver du présent, mais on peut arriver directement du XVIIe siècle ou de la préhistoire et se retrouver prisonnier par sa masse infinie. Donc il y avait déjà cette idée-là. Ensuite, il y avait l'idée de me placer dans la peau de Abi Warburg, le célèbre esthéticien et historien de l'art qui était actif dans les années 1920, un Allemand qui a révolutionné l'iconologie, le symbolisme des images, et à qui il est arrivé une étrange mésaventure, dans la mesure où, après la guerre de 14, traumatisé par les morts de la guerre, il a fait un épisode psychotique et s'est retrouvé plusieurs années interné dans une clinique psychiatrique de luxe au bord d'un lac, du lac de Constance en l'occurrence. Et il s'y est retrouvé en compagnie d'autres personnages réels, encore plus fameux qu'il ne l'était lui-même, dans la mesure où il y avait le danseur Nijinsky, il y avait le peintre Kirchner, Ernst Ludwig Kirchner, et puis la fameuse féministe Anna Pappenheim. Et pendant 2 ans, le fameux Abi Warburg a noirci des milliers de cahiers de gribouillis sans signification, était vraiment complètement perdu dans sa folie. Grâce au traitement du professeur Binswanger, qui a réellement existé et qui était son neurologue de l'époque, il se sent assez guéri pour lui proposer quelque chose que je trouve extraordinaire, une expérience de lucidité. Il dit « Je vais vous faire une conférence vous prouvant que je suis lucide, que j'ai retrouvé ma raison. Et si je réussis cette expérience, cette épreuve de lucidité, vous me libérez et je sors. Et c'est ce qu'il a fait en racontant le récit anthropologique d'un voyage qu'il avait fait 40 ans auparavant chez les Indiens Hopi. Donc il fait une conférence sur le rituel du serpent chez les Indiens Hopi. Et en lisant tout ça, bon, je me suis intéressé à son œuvre sur la mémoire, à son atlas mnémosyne où il essaye de classer toutes les images, toute l'iconographie existante depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui en cherchant quelles sont la récurrence des traumas originaux qui permettent de retrouver des ressemblances à travers les époques. Je me suis dit, comme pour Kircher, que j'avais là un personnage en or et que ce serait bien d'imaginer les deux Harbour, les deux Warburg. Le Warburg pris dans sa folie et dans son délire imaginatif, et le Warburg procédant à son épreuve de lucidité et guérissant. D'où ces deux personnages, l'un au Chili qui s'appelle Abi Warburg et l'autre à Zindane qui s'appelle Augustin Harbour.
Oui, donc d'un côté Augustin Harbour à Zindane, et de l'autre côté, donc au Chili, le même, hein, en quelque sorte, qui reprend ses souvenirs, alors dont on ne sait pas si ils sont inventés ou pas, parce qu'ils sont tellement absolument farfelus, l'exploration...
Mais documenté.
Mais documenté, voilà. Que le lecteur, en tout cas, moi j'ai été pris absolument dans cette succession de récits absolument incroyable jusqu'au bout. Alors c'est un roman d'une imagination absolument inouïe. Pourquoi ? Parce que comme vous le disiez tout à l'heure, on a l'impression que de ce trou noir peut sortir effectivement les œuvres de Proust, mais il sort énormément de choses hein, dans Zindane, du passé, du présent, de l'avenir, des inventions extraordinaires. C'est un peu un gigantesque aussi catalogue d'inventions loufoques. Je pense que c'est quelque chose que vous mûrissiez depuis longtemps. On ne fait pas ça en quelques mois.
C'est quelque chose que je mûrissais depuis plusieurs années. Et c'est un livre quand même qui m'a pris 3 ans d'écriture, dont 1 an uniquement consacré au dessin. Et comment dire ça ? Vous avez vu que les dessins sont tous dans la lignée des plus ou moins des collages de Max Ernst ou de Chumi Chumez, hein, que personne ne connaît plus, mais qui avait fait à peu près la même chose que Max Ernst, mais sur une biographie de l'ampleur d'une grande bande dessinée. Et moi, je suis fasciné par ce type de gravure sur bois qui illustrait des livres que je ne cesse de lire et de relire depuis mon adolescence, à savoir la collection de la revue du Tour du Monde, les revues de l'illustration, les revues du journal illustré, tout ce type de dessin et de gravure me fascine. Et j'ai fait des collages à la Max Ernst quand j'avais 18 ans, j'en ai une collection. C'est quelque chose que je pratique régulièrement. Tous les personnages, tous les noms de personnages de tous mes romans sont piqués quelque part dans ces revues, dans ces journaux du 19e siècle. C'est vraiment mon Athanor. Je ne cesse de refeuilleter tout ça. Et effectivement, quand j'ai commencé à imaginer qu'est-ce que pouvait être cette oasis complètement folle, peuplée de blancs au milieu du désert, mais avec des cordes noires, et où toutes les civilisations se sont mélangées, où toutes les religions ont disparu puisque Dieu existe, donc elles n'ont plus lieu d'être, où la superstition règne parce que le Dieu en question est un Dieu Osiosus qui est certes omniscient, mais totalement impotent parce qu'il n'est pas capable de changer sa création. Donc il est bien inutile de le prier, il ne peut rien faire sinon vous rassurer par sa présence. C'est donc dans ces dessins que j'ai fouillé, collé, redessiné, et souvent dans les deux sens, c'est-à-dire que avant même d'avoir un synopsis très précis du livre, c'est-à-dire alors même que j'étais en train de concevoir toute la machinerie, toute la structure, j'ai dessiné, j'ai collé. Et j'ai inventé après à partir de ces collages et de ces dessins. Certains dessins préexistent aux personnages. Et ensuite, je me suis servi des dessins pour inventer les personnages. Et ensuite, ça a été effectivement le contraire. Quand j'invente une aide qui décode des poteries avec son coude ou avec ses doigts, il a bien fallu que je la dessine.
Oui, alors ça, c'est un des objets techniques les plus fascinants de l'oasis de Zindane. Ce sont des poteries dans lesquelles on enregistre, un peu comme un disque dans un micro-sillon, par les cercles qui sont gravés autour de ces vases, et que quelqu'un peut relire du doigt. Donc ces femmes, ces aèdes, rechantent ce qui a été enregistré dans ces vases en terre cuite, comme s'il s'agissait de disques micro-sillons. Et... Oui, donc moi, ça m'a fait penser aussi aux revues d'Édouard Charton, le Tour du Monde, le magasin pittoresque dont vous avez parlé au 19e siècle, mais aussi à Raymond Roussel. Et notamment, ces livres illustrés, il y a quelque chose comme ça de ce choc un peu entre le texte et le dessin. Je vais ouvrir le livre pour expliquer aux auditeurs. Par exemple, si je prends à peu près au hasard... page 202. Alors là, on voit un homme nu, avec un coiffé d'un chapeau melon, accroupi, donc au trait noir, en train de tenir une canne, un peu comme s'il tenait une sarbacane plutôt. La légende, puisque toutes ces illustrations sont évidemment légendées, il y en a une, deux, trois, quatre par page, voire plus. La légende nous dit musicien vérifiant l'horizontalité du monde. Voilà. La légende même de ces illustrations compose une espèce d'immense poème, effectivement, qui a à voir avec Max Ernst et les surréalistes, mais que vous arrivez à rendre extraordinairement réel. Et c'est ça qui m'a absolument fasciné dans cette lecture, c'est que on s'arrête pas et on finit par y croire.
Mais c'est le défi de l'illusion. C'est ce que nous faisons. Nous, romanciers, je pense, c'est arrivé à rendre vraisemblable, et plus que vraisemblable, à rendre vrai ce qui n'est que le résultat d'un travail d'artisan, d'une machinerie secrète, d'un artifice. Donc ça, c'est... Moi, j'étais très content de votre présentation de la salle des machines. Je me sens comme un mécanicien, avec les mains dans le cambouis, avec les rouages. Une nouvelle comme un roman ne fonctionne que si on a une salle des machines parfaitement au point dessous. Sinon, l'illusion ne fonctionne pas.
Dans votre cas, c'est très documenté parce que c'est que des détournements de textes qui existent. Par exemple, on voit que cette oasis de Zindane, Zindane, c'est un mot qui vient du persan, mais qu'on trouve en ottoman aussi, qui veut dire prison, forteresse. Enfin, tout cela est extrêmement, extrêmement précis. Et si on cherche, on a l'impression qu'on peut fouiller à l'infini et que, un peu comme sorti du trou noir, on découvre chaque fois plus d'informations, comme si le roman débordait un peu dans le réel.
C'est voulu, tout est vrai, sauf ce qui est faux, comme dans tous les romans que je fabrique. Mais en grande majorité, il s'agit, y compris dans les textes, d'une mise à plat de mon processus créatif lui-même. C'est-à-dire que ça fonctionne par collage. Je ne crois pas qu'on puisse inventer, imaginer à partir de rien. pour fabriquer des monstres, il faut prendre des petits bouts d'oiseaux, des petits bouts d'ailes de chauve-souris, des becs d'aigle, et puis coller à un moment donné, et on fabrique un monstre, on invente quelque chose. C'est pareil pour les textes, je me sers de mille et un carnets, de mille et une citations, mille et une anecdotes que je garde dans mes tiroirs, chaque fois que je pense que ça pourrait me servir un jour. Il y a un moment où ça sert et où je peux mettre un personnage à genoux avec sa canne et le transformer en mesureur de l'horizontalité du monde, sachant que le monde Azindan, le cosmos Azindan est conçu comme une huître plate. Et donc il faut mesurer l'horizontalité de cet univers. Et vous parliez d'infini, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, le fait qu'on puisse déployer sans cesse les histoires. Donc il y a la possibilité pour un lecteur d'aller chercher à chaque fois et de suivre des pistes. Il peut suivre la piste de Miss Stanhope, par exemple. Il va lire 10 livres sur Miss Stanhope ou sur Nelly Bly ou sur Ada, Isaac, Mencken, cette fabuleuse poétesse, guerrière et danseuse américaine du 19e siècle. Mais il y a aussi tous ces QR codes qui sont tous fonctionnels et qui fabriquent du texte en plus pour le lecteur.
Oui, parce que c'est aussi un mélange entre aujourd'hui et hier, le plus contemporain et l'archaïque. Hein. Et donc, par exemple, ce fameux signe parleur que, dans le roman, vous appelez aussi, avec un nom magnifique, de Romran Code, le QR code, hein, devient de celui de Romran, d'un endroit mythique, des textes bibliques, voilà. Et si on suit ce que j'ai fait, évidemment, très curieux de voir où m'amenait hein, ce QR code, on tombe sur un générateur de
nécrologie,
de biographie, de personnages extraordinaires, très étranges. Hein. J'en ai un sous les yeux, par exemple, un directeur d'école primaire qui oubliait parfois jusqu'à sa propre adresse et flétrissait la gloire injustifiée des footballeurs. Enivré par sa première expérience sexuelle, il ne desserra plus les poings pendant 16 ans. « Je suis comme un calmar qui doute, dit-il, avant d'insulter Jéhovah et de tomber sous les balles de la police. Ouais. » Et donc, le roman se déploie comme ça dans toutes les directions possibles.
Avec des textes comme ça, vous pouvez en lire un par seconde, chaque fois différent, depuis la naissance du Big Bang jusqu'à la fin et l'explosion générale de l'univers. C'est à peu près 100 fois plus que les 100 000 milliards de poèmes de Queneau. J'ai fabriqué un générateur qui peut fonctionner comme ça, qui contient la bibliothèque de Babel, en fait. Il y a des milliards de livres contenus juste dans ce QR code.
Merci beaucoup Jean-Marie Blas de Robles. J'invite les auditeurs à se rendre aux librairies en masse pour acquérir Ce qu'ici-bas nous sommes, paru aux éditions Zulma.
This is our love story from my own point of view.
From above.
It started as I was watching you. Above. And as I was watching you,
I was finding my love.
I know it sounds strange to you, you never
watching
it before.
You.
Then I decided to arrive to go down to meet you.
From
as I was falling down,
you
caught me
into your
such a surprise. I don't know how could it happen. I guess it's because I was watching you for so long, you know.
Watching you.
We had some kind of connection.
I
remember
you
saw you coming closer and closer to me.
Closer to me.
And maybe it was the excitement, I don't know. I was paralyzed.
I
fell on my knees. It was me, you. It was
you,
us. Finally. But the sad story was
giving all my powers.
That I was giving all my powers to you. Now I could no longer fly.
No longer fly.
Right above you.
Right above you.
Like I used to. I could no longer fly.
No longer fly and watch you.
I have no other choice.
I was coming.
I'm coming to tell you
to tell you.
I have to
goodbye. Yeah, I was falling.
I can't say anything to you. I'm just falling down
into your arms.
Into your arms.
France Culture, la salle des machines, Mathias Sénard.
On aime à se replonger dans ce qu'on connaissait, qu'on a oublié, et que le marché, une fois n'est pas coutume, a le bon goût de faire ressurgir à point nommé et pour un prix modeste. On pourrait les semer en cas d'égarement, les livres comme des cailloux hors de nos poches. Cette semaine, tirons de notre besace Dezső Kostolányi, écrivain et journaliste hongrois mort en 1936 à Budapest, dont le livre de poche réédite des récits brefs, sous le titre « Le traducteur kleptomane ». C'est précisément la nouvelle éponyme, celle du traducteur kleptomane, donc, qui va nous intéresser maintenant. Imaginez un traducteur hongrois de l'anglais, si savant dans la langue anglaise, si érudit que le prince de Galles soi-même aurait pris des cours auprès de lui. Un traducteur expérimenté dont on découvre, et c'est son seul défaut, qu'il ne peut s'empêcher de dérober, de chaparder tout ce qui lui tombe sous la main. Une montre à gousset, des pantoufles, un énorme tuyau de poêle, il vole tout. Jusqu'à ce qu'il finisse par être arrêté pour avoir subtilisé son portefeuille à un marchand morave dans l'express de Vienne. Menottes, police, vive émotion chez ses confrères. Ses amis essayent de prouver qu'il ne s'agit pas d'un voleur, mais bien d'un kleptomane, ne méritant donc pas toute la rigueur de la loi. Il s'intéresse alors au manuscrit d'une de ses traductions, un roman policier traduit en hongrois, et patatras, voici ce qu'il découvre, je cite. « Ma consternation a été à son comble quand j'ai constaté, tout doute exclu, que la chose, avec un fatal esprit de suite, se retrouvait du début à la fin de son travail. » En quelques lieux que sa plume est passée, le traducteur avait causé préjudice au personnage, et cela à peine connaissance faite. Et sans égard pour aucun bien, mobilier ou immobilier, il avait porté atteinte au caractère incontestable, quasi sacré, de la propriété privée. Il travaillait de diverses manières. Le plus souvent, les objets de valeur, ni vus ni connus, avaient disparu. De ses tapis, de ses coffres-forts, de cette argenterie, destiné à relever le niveau littéraire de l'original anglais, je ne trouvais dans le texte hongrois aucune trace. Le traducteur kleptomane les avait tout simplement volés.
Thank you.
C'est un ouvrage d'un format inusuel, à la française, mais qui tend vers le carré. En son cœur, le papier est très blanc, lisse sous les doigts, protégé par deux gardes plus épaisses de couleur terre d'ombre, délicatement vergées. Le même terre d'ombre qui orne le dos, dont le bas porte comme un sceau, une licorne cabrée, blanche. La couverture est une carte, couleur sable, liserée d'un champagne un peu plus profond, sur laquelle on trouve, en queue, réservée dans un cartouche, tout aussi champagne, ou vieux rose, le nom de l'éditrice, Sabine Vespizer, blasonnée de sa licorne cabrée. Au centre, au-dessus de l'indication du genre, roman, et dans un cartouche gris foncé, le titre, sous le ciel des hommes, et enfin, réservé blanc sur orange, le nom de l'autrice. Diane Meur, soyez la bienvenue.
Merci.
Diane Meur, vous avez grandi à Bruxelles, vous avez publié 6 romans chez Sabine Vespizer et un essai aux éditions de la Contre-Allée, Entre les rives, dont nous reparlerons tout à l'heure. Vous êtes aussi traductrice de l'allemand, entre autres de Erich Auerbach, Martin Buber, Heinrich Heine, Stefan Zweig, j'ai envie de dire rien que ça, mais aussi de l'anglais. Et depuis votre premier texte publié en 2002, La vie de Mardoché de Löwenfels, raconté par lui-même, premier roman de plus de 600 pages, qui racontait les errances et mésaventures d'un chevalier du Saint-Empire au XIVe siècle. Depuis ce premier opus jusqu'à La carte des Mendelssohn, paru en 2015, qui retraçait la généalogie et l'histoire de cette grande famille, en passant par l'immense Les vivants et les ombres, saga familiale située en Galicie, on peut dire que votre univers romanesque se développait plutôt dans l'espace germanophone. Or, le roman qui paraît ces jours-ci, Sous le ciel des hommes, se déroule à Landville, capitale du grand-duché d'Épône, et partage donc avec le roman de Jean-Marie Blas de Robles, dont nous avons parlé précédemment, d'avoir pour décor un endroit qui n'existe pas. Un lieu inventé, mais pourtant bien réel, car vous savez le rendre réel, ce grand-duché d'Épône, avec son lac, sa fête de la dynastie et son confort bourgeois. C'est l'endroit où les panneaux annoncent « capitale du chou farci et centre géographique de l'Europe ». On apprend dans le texte qu'on n'est pas très loin de la Slovénie. On sait aussi qu'on y parle français, peut-être même exclusivement français. Nous sommes donc aux alentours de Noël. Et le journaliste et écrivain Jean-Marc Ferron accueille un réfugié chez lui pour quelques mois, Hossein, et surtout pour écrire un livre et raconter cette expérience. Dans le même temps, un groupe d'intellectuels rédige à plusieurs un pamphlet anticapitaliste intitulé « Remonter le courant ». Et l'un d'entre eux, Jérôme, vit une histoire d'amour clandestine et adultère avec Sylvie, cadre dynamique de l'entreprise Summum. Un roman des personnages où chacun de ses protagonistes se trouve sans le savoir à un moment tournant de sa vie. Jean-Marc Ferron va faire l'expérience par exemple du blocage et de l'impossibilité d'écrire et va se voir infliger une ghostwriter pour l'aider à s'en sortir. Diane Meur, pourquoi inventer une ville ? Le grand-duché du Luxembourg ou la principauté du Liechtenstein, ça faisait pas l'affaire ?
Assez rapidement, j'ai choisi de camper ce roman, qui est un roman d'utopie, dans un lieu qui n'était forcément pas tout à fait réel, pour me donner les coudées franches d'un point de vue romanesque, pour pouvoir réellement inventer, travailler les schémas qui devaient un petit peu exploser. Je pouvais pas ancrer ça dans un lieu trop réel. Je n'aurais pas eu la même liberté de faire ainsi bouger mes personnages, de les faire traverser par des courants qui les dépassent. Et puis, pour en revenir à l'espace germanophone, ce petit état francophone que j'ai inventé, il sent bien son Europe centrale, quoi. On est quand même quelque part, c'est pas allemand, on parle pas allemand, mais, pour moi, c'est vraiment une atmosphère bien particulière, avec ce côté un peu maison en pain d'épices, boîte à musique, un côté un peu mièvre et charmant, mais un peu inquiétant en dessous. Et je trouvais que c'était vraiment une atmosphère rêvée pour camper un roman qui est pas tout à fait un roman réaliste, en fait, à mon sens, et dans lequel, assez vite, dès le premier chapitre, en fait, le chapitre d'ouverture où on décrit cette double ville qui s'appelle à la fois Landville et Épône, parce qu'elle est sur les deux rives d'un lac, comme Budapest, en fait. Et, assez vite, je voulais faire, sentir qu'il s'agissait d'autre chose, qu'il s'agissait d'un roman voilà, sur l'utopie, sur l'anachronisme et peut-être un peu sur la société du spectacle. Alors, rien de tel qu'un décor de carton-pâte pour parler de spectacle.
Effectivement, d'utopie, il en est vraiment question. Vous aviez besoin de le mettre dans un lieu qui n'existe pas, mais néanmoins, par exemple, le sort qu'on y fait aux réfugiés est à peu près
identique. C'est
très,
identique, très réel, oui.
Et tout à fait assez réaliste, pour le coup.
Oui, en fait, c'était une façon... C'était un peu à l'heure, ce micro-État, ce petit paradis fiscal de mon invention, parce que du coup, le lecteur ne se méfie pas. Il a l'impression qu'on est dans un... peut-être quelque chose d'un peu satirique, voilà, il ne s'agit pas de son monde à lui. Mais en fait, très rapidement, on se rend bien compte que c'est tout à fait le monde d'aujourd'hui, dans tout ce qu'il a de plus cru, de plus incarné en ce qui concerne les personnages. Et donc, voilà, c'était une façon un peu de, voilà, d'amadouer, d'endormir la méfiance, et puis crac, au moment où le lecteur se réveille, il s'aperçoit qu'il est vraiment dans son monde à lui.
Oui, le premier personnage auquel on a affaire, d'ailleurs, c'est Jean-Marc Ferron et son éditeur. On ne sait pas s'il va devenir sympathique au fur et à mesure. En tout cas, moi, il m'est devenu assez sympathique, mais il ne l'est pas au début, puisque finalement, il instrumentalise un peu son sujet, c'est-à-dire les migrants.
Voilà, il s'agit pour lui et son éditeur de choisir le meilleur sujet possible. Donc, ça fait des semaines qu'ils épluchent des listes de migrants possibles. Il faut trouver le bon candidat qui va faire un bon bouquin, qui passera bien à l'antenne. Et en fait, donc, c'est... On est un peu à la foire aux bestiaux. Et effectivement, dans ce premier chapitre, Jean-Marc Ferron est un personnage assez creux, assez antipathique et sur lequel on ne miserait rien, quoi, d'un point de vue humain. Et en fait, bon, il est loin d'être le seul personnage du livre, mais il me semble qu'il a un parcours qui en quelques chapitres, le révèle comme un personnage vraiment beaucoup plus profond, beaucoup plus tourmenté, en fait, et... Qu'on imagine au départ. En fait, à la limite, à la fin du livre, c'était le personnage que je trouvais le plus attachant.
Oui, c'est vrai que tous ces personnages évoluent, et notamment aussi ce deuxième bloc à l'intérieur du livre, c'est cette communauté, ce groupe d'intellectuels qui cherchent à rédiger un manifeste anticapitaliste.
Voilà, enfin, dans mon esprit, c'est plutôt une bande d'amis, en fait, qui se connaissent parce qu'ils ont tous suivi le même séminaire qu'une dizaine d'années auparavant. C'est surtout la tonalité principale, c'est l'amitié. Enfin, ce qui les relie, c'est une sorte de... Et effectivement, ils se sont mis en tête d'écrire à plusieurs mains un pamphlet, chacun écrivant son chapitre. Personne n'est vraiment le chef, du tout même. Et c'était une façon... En fait, à vrai dire, ce pamphlet, à un moment donné, j'avais l'intention de l'écrire moi-même. Voilà, parce que c'est un roman qui était un peu contrarié dans sa genèse. Enfin, je cherchais ma forme, j'étais pas encore vraiment. Je me suis dit, mais en fait, le problème, c'était que j'ai pas envie d'écrire un roman, j'ai envie d'écrire un pamphlet. Donc, j'en avais écrit des bribes, mais je m'en suis servi, bien sûr. Mais en fait, dans un second temps, il m'a paru beaucoup plus amusant et aussi beaucoup plus intéressant au lieu de servir ce pamphlet tout écrit, de le faire écrire par mes personnages. Et donc, en fait, on voit tout le temps la pensée en mouvement, en marche, en train de naître, au lieu de la voir toute faite, assénée comme un ensemble de thèses, ce qui n'aurait pas vraiment correspondu à l'idée que je me fais d'utopie.
Oui, mais même ce groupe donc d'amis qui rédigent ce pamphlet vont eux-mêmes faire l'expérience, enfin, du débat, en tout cas, autour de l'utopie, ce qui est un des chapitres centraux du récit. Et puis un autre groupe, ou une paire plutôt, on pourrait dire, de personnages, c'est cette Sylvie, cadre tout à fait dynamique de cette entreprise, et qui entretient cette relation adultère avec Jérôme, qui est aussi un des ressorts narratifs du roman.
Ouais, je pense que cette histoire, très triste d'ailleurs, est un peu condamnée dès le départ, et un peu le... Je dirais pas l'épine dorsale du roman, parce que l'histoire de Jean-Marc Ferron et de son migrant en est une autre. Mais en fait, les différents fils narratifs vont peu à peu converger dans les derniers chapitres. Ils se tissent vraiment tous. Ils ne deviennent qu'une seule histoire. Mais effectivement, cette histoire de couple, quoi. Enfin, cette histoire qui tourne assez mal, hein, et à la croisée des chemins de toutes les lignes, en fait, directrices du livre. Cette espèce d'amour impossible, d'incompréhension. En fait, ils appartiennent à des mondes tellement différents que tout a l'air impossible pour eux, et ce qui pourrait arriver, en fait, Sylvie est un personnage trop enfermé en soi-même pour le saisir. En fait, c'est une histoire assez sombre. En fait, ce n'est pas qu'un roman satirique et comique. Il y a aussi des nids qui sont beaucoup plus tragiques. Pour moi, Sylvie, c'est un personnage tragique, en fait.
Tragique presque, j'ai envie de dire, malgré elle, puisque elle a l'air extrêmement heureuse dans son métier, qui est un peu la partie pour elle la plus...
Oui, en même temps, elle, en tant que femme, elle sait bien qu'elle dépassera jamais un certain niveau dans son entreprise. Enfin, elle est un peu tourmentée, elle est insatisfaite en permanence. Non, je dirais pas qu'elle est vraiment particulièrement heureuse dans son métier. Elle est heureuse dans rien, en fait. Elle est particulièrement peu douée pour le bonheur. Et du coup, je pense que... pour le lecteur, il est clair que tout ça ne va nulle part et on se demande combien de temps ils vont mettre avant de rompre. Mais il en faut quand même beaucoup. Je veux dire, il y a quand même un lien très profond entre ces deux personnages et il faut vraiment l'acharnement dans la négativité de Sylvie pour
Il faut dire que c'est aussi c'est un couple adultérin. Elle est mariée, un homme qu'on aperçoit comme ça un peu de loin. Elle a des enfants.
Fait, oui.
Et alors que lui, Jérôme, qui apparemment est plus jeune qu'elle, et aussi ou c'est moi qui ai imaginé ça, peut-être qu'il était
non,
plus
il est
jeune
un peu
qu'elle.
Plus jeune qu'elle, effectivement. Puis et lui n'a pas d'enfant. Enfin, c'est encore un.
Il est tout à fait disponible, et donc voilà, c'est un peu un.
Mais c'est aussi un schéma de domination, en fait. Il y en a beaucoup dans le livre. Il n'y a pas que ça, heureusement. Il y a aussi des rapports d'amitié, de solidarité, tout ça. Mais il y a beaucoup de schémas de domination, une sorte de palette, quoi, de schémas de domination possibles. Et en fait. Clairement, Sylvie se laisse aimer paresseusement, sans y mettre du sien, alors que Jérôme demande beaucoup plus. Et en fait, il finit par rompre parce que, après avoir constaté en fait l'impossibilité de quoi que ce soit, enfin, il est allé au bout de ce qu'il pouvait attendre d'être, c'est-à-dire rien. Et c'est pour ça que je trouve cette histoire assez triste, en fait.
Oui, c'est une histoire assez triste, mais qui aussi permet de renforcer justement tout l'aspect utopique du roman par ailleurs, et de donner à ce groupe et l'espoir que suscite leur débat autant plus de relief et de plaisir, puisque la question centrale du livre, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut construire ou rêver ou penser encore aujourd'hui à l'utopie.
Le fait qu'il y a beaucoup plus de joie dans cette bande d'amis écrivant un pamphlet ensemble que dans le ménage de cette jeune cadre dynamique du secteur de la mode, où en fait tout est absolument sinistre, même l'éducation de l'enfant est sur le mode de la contrainte, de l'angoisse de l'avenir, de la... Comment dire oui, il y a un contrepoint assez fort entre toutes les histoires, en fait. Enfin, les personnages ont beau tous se connaître, parce que c'est une sorte de toile. Tous les personnages il n'y a pas d'histoire parallèle, en fait. Toutes s'entrecroisent à un moment donné. Mais les contrastes entre comment dire, l'atmosphère de... C'est comme s'ils évoluaient dans des bulles un petit peu étanches. Et pourtant, la vie de chacun va avoir une incidence sur la vie des autres. Tout va se toucher comme une sorte de partie de billard où toutes les billes s'entrechoquent et se font rebondir. J'ai eu beaucoup de plaisir, en fait, à agencer tous les petits fils de cette histoire, hein. À en tresser des différentes composantes. Il y avait un côté très, comment dire, très artisanal ou textile dans la fabrication de ce livre. J'assume le mot de fabrication.
Oui, alors qu'est-ce que c'est ce ciel des hommes, hein, pourquoi sous le ciel des hommes? Est-ce que justement c'est les hommes qui veulent atteindre le ciel? Est-ce que c'est le ciel des humains, cette utopie qu'ils fabriquent, justement, est-ce que c'est un possible espoir ou au contraire, est-ce qu'on va vraiment plutôt vers la catastrophe et à laquelle on ne pourrait rien?
Je dirais que c'est tout ça à la fois, en fait. Quand ce titre m'est venu, je l'ai trouvé... je trouvais que c'était un très bon titre, mais je ne savais pas exactement ce que je mettais dedans. Et en fait, le roman est parsemé d'interprétations du titre. Je pense qu'il y en a à peu près 7, 8 ou 9. Enfin, certaines sont plus anecdotiques que d'autres. Il y en a qui sont vraiment sérieuses. Donc, c'est vraiment tout ça à la fois. C'est-à-dire... Quand le titre m'est venu, je l'ai compris d'une façon assez sombre, en fait. Sous le ciel des hommes, c'était plutôt... Voilà, j'en donnais une interprétation assez négative. Et quand j'ai parlé, mon éditrice m'a dit « Ah, c'est merveilleux, c'est le résumé de l'utopie. » Et donc, j'ai réfléchi, je me dis « Ah oui, c'est vrai, c'est beaucoup plus ambivalent et plus ambigu que je ne croyais. » Et donc, je me suis amusée un petit peu à décliner toutes les interprétations possibles de ce titre. Mais c'est exactement ça, en fait. le titre est ambigu parce que l'humanité est, elle-même est ambiguë. Elle est capable du pire comme du meilleur. Et après tout, s'il y a un message dans ce livre, c'est quand même que nous sommes chacun individuellement et collectivement aussi... mais libre de notre destin, quoi, libre de ce qu'il advient de ce monde. Et en fait, voilà, le ciel des hommes peut être la plus belle des choses comme la pire, voilà, pour le dire en peu de mots.
Vous citez à un moment Dante, cet magnifique vers du paradis. Tu laisseras tout ce que tu aimes le plus chèrement, telle est la flèche que l'arc de l'exil décoche en premier lieu. Ce qui se poursuit, en fait, parce que vous citez pas, mais la suite, c'est « Tu éprouveras combien d'autrui le pain est amer et quel dur chemin est le monter et descendre par l'escalier d'autrui ». Enfin, la traduction que j'ai trouvée est pas extraordinaire, contrairement à la vôtre. Et est-ce que c'est Dante qui vous a pas un peu fourni votre histoire? Est-ce qu'elle n'était pas déjà cette citation sur l'exil un peu au début du livre?
Mais Dante m'accompagne depuis très longtemps, en fait. Je crois qu'une de mes premières traductions de l'allemand, celle d'Auerbach, c'était les écrits sur Dante, qui m'ont fait, en fait, plancher pendant des mois et des mois, peut-être plusieurs années, sur l'œuvre de Dante, enfin, sur la comédie. Et donc, c'est des références qui sont bien ancrées en moi. Et en fait, je dois reconnaître que l'idée première de ce roman, c'est l'exil, en fait. C'était un roman de l'exil. Ça, c'était clair depuis le début. J'ai beaucoup, hésiter à l'époque à laquelle je voulais camper ce livre. J'hésitais à en faire une histoire des années 30-40, là, tout à fait au hasard, ou une histoire totalement contemporaine. Et puis j'ai décidé de choisir ce cadre qui est contemporain, mais avec des échos comme ça d'autres époques. C'est aussi ce que permet un lieu pas tout à fait réel. Ça permet d'entrechoquer de faire passer plusieurs images de façon un peu superposée. Et là, il me semble qu'il y a pas mal de références quand même aux heures les plus sombres du XXe siècle, mais pas seulement. Et donc, effectivement, la figure de Dante et de l'exil, qui est un peu l'exilé par excellence, quoi, est là en toile de fond, un moment de l'intrigue, en fait, où on s'y attend pas tout à fait. C'est pas justement le moment où on parle des migrants ou quoi que ce soit, mais ça arrive comme ça, et en fait, ça donne un peu toute la cohérence au thème du livre. Parce qu'en fait, il y a aussi l'idée de ce monde contemporain dans lequel tout le monde est un peu menacé d'obsolescence, tout le monde est un peu en exil, en fait, dans un monde qui est plus vraiment fait pour l'être humain. Et du coup, la figure de l'exilé est à la croisée de ces deux thèmes qui sont l'émigration et, l'obsolescence de l'homme à l'ère post-industrielle.
Oui, vous dites « Pour penser l'utopie, il faut être en exil », faites-vous dire à un de vos personnages, et vous ajoutez quelques pages plus loin « D'abord, je me garderais bien d'enfermer l'utopie dans le cadre figé et assertif d'un essai. Je pensais plutôt à un livre où elle serait à l'œuvre au lieu d'être un sujet, où elle entrechoquerait les époques et les lieux, travaillerait le réel, les situations de la vie, les relations entre les personnages. L'utopie, c'est un roman, en fait. »
Voilà, c'est ça. J'ai fait décrire mon propre roman par un des personnages de ce roman, ce que je trouvais assez amusant, comme ça, au beau milieu du livre, enfin, à peu près à la moitié, le mode d'emploi est fourni. Enfin, le mode de lecture, plutôt.
Oui, mais au-delà de l'aspect plus anecdotique, c'est vraiment le cœur du roman, c'est l'utopie.
Oui, complètement. Et l'anachronisme, parce qu'en fait, pour moi, c'est un petit peu la même chose. C'est deux. L'une est vue d'un œil positif et l'autre, c'est la... L'utopie vue par un œil qui ne l'aime pas, ça devient l'anachronisme, en fait. On vous dit, vous n'êtes pas de votre temps, vous rêvez, vous êtes hors de l'époque.
Diane Meur, vous êtes non seulement romancière, mais aussi traductrice. Alors, est-ce qu'il vous est arrivé de subtiliser quelque chose en traduisant, comme le traducteur de Costolani?
Je suis très honnête. Hein.
Un bijou, un disque?
Non, mais il faut, par contre, composer avec enfin, l'inévitable déperdition qu'il y a à la traduction. Effectivement, il y a toujours un petit peu moins dans la traduction que dans l'original. Il faut, en revanche, savoir choisir ce qu'on perd. Mais je garde rien dans mes poches, là, je vous jure.
Et vous avez mis en scène un traducteur, hein, aux prises avec une traduction impossible dans le roman Les villes de la plaine, qui traduisait les textes de loi, paru en 2011. Et moi, j'ai l'impression que votre salle des machines ouvre aussi sur les rapports entre création et traduction, entre écriture et traduction. Vous avez consacré l'année dernière un recueil d'essais entre les rives à votre activité de traductrice. Et vous dites, je cite, « Comme beaucoup d'autres, j'écris à l'oreille. Et dans l'écriture, j'englobe aussi la traduction, ce qui mériterait d'être soigneusement argumenté, mais m'entraînerait trop loin de mon sujet. » Donc je me suis dit qu'aujourd'hui, vous allez enfin pouvoir répondre à cette question. Et vous écrivez donc à l'oreille. À l'oreille plutôt qu'à la machine, en fait.
D'abord, j'écris à la main. Et puis à l'oreille. Mais j'écris pas à la machine. Oui, non, c'est vrai. Non, mais j'aime le rapport un peu manuel et artisanal avec l'écriture. Hein, qu'elle soit écriture à moi ou écriture d'une traduction.
Mais qu'est-ce que ça veut dire écrire ou traduire à l'oreille? Traduire et écrire, pour vous, c'est du même ordre?
Oui, c'est, dans une certaine mesure, c'est un peu la même activité. Parce que dans un cas, je traduis le texte ou la pensée d'un autre, et dans l'autre cas, j'essaie de traduire ma propre pensée. Donc en fait, finalement, il y a toujours un travail d'ajustement, d'aller vers le mieux, d'aller vers exactement ce qui doit être dit, qui est, c'est pas une sorte de travail de recherche et d'affinage qui est quasiment identique, quoi, dans les deux cas. Et à l'oreille, alors bon, à l'oreille, il faut pas le prendre au sens vraiment le plus propre. C'est pas que je beugle des textes dans mon bureau, mais c'est une question de tonalité, de diapason, de rendre une voix. Et donc c'est très acoustique dans un premier temps, je trouve, l'écriture, comme la traduction d'ailleurs. C'est quand j'écris un roman comme ça, j'ai l'impression de composer au sens musical. Par exemple, ce chapitre sur l'utopie et l'anachronisme, qui est au début, enfin qui dont on parlait tout à l'heure et qui est à peu près au, enfin je sentais que ce chapitre, il fallait qu'il soit, mais comme un compositeur qui choisit de reprendre un thème, je sentais que ça devait être un peu avant le milieu, pas tout à fait au milieu du livre, mais juste un peu, peut-être au 2/5. Je sentais vraiment, j'avais une sorte de vision de l'ensemble, comme on peut avoir un mouvement de symphonie en tête. Je me dis, ah, c'est à ce moment-là que ce thème doit résonner, quoi. Pour la première fois, en tout cas. Et peut-être je le reprendrai un peu plus loin, mais c'était vraiment... C'est peut-être d'avoir fréquenté des compositeurs, enfin, des Felix Mendelssohn, tout ça, qui m'a donné cette sensibilité musicale, je ne sais pas.
Dans un livre antérieur.
Dans un livre antérieur, oui.
La carte des Mendelssohn. Est-ce que vos traductions nourrissent votre écriture?
Oui, enfin, ça marche un peu dans les deux sens. L'écriture aussi nourrit la... Enfin, je sais, c'est pour moi, entre les rives, c'est pas deux langues, hein. Les deux rives, c'est un peu l'écriture et la traduction, et j'ai l'impression d'être entre les deux en permanence, ou l'art de traverser, de retraverser, mais je suis toujours un peu au milieu du courant, en fait.
Tous les textes sont peut-être, pour reprendre la phrase de Joao Busquet, traduits du silence. Merci beaucoup, Diane Meur. On retrouve Sous le ciel des hommes aux éditions Sabine Vespizer, dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. On se souvient qu'autrefois, dans les paquebots et les cargos, de magnifiques transmetteurs d'ordre en cuivre faisaient résonner les instructions de la passerelle dans les entrailles du navire. Comme chaque semaine en fin d'émission, un message parvient jusqu'à notre salle des machines pour partager une expérience d'écriture. Aujourd'hui, Hugo Lindenberg, dont le premier roman « Un jour, ce sera vide » paraît aux éditions Christian Bourgois.
On m'a demandé comment en est-on arrivé là. Je sais pas. La seule question qui m'intéresse en ce moment, c'est elle. Comment elle en est arrivée là. Elle que j'ai passé mon enfance à appeler ma tante folle, elle que j'ai haïe, elle que j'ai souhaité morte. Dans ma famille, on ne disait rien à son propos. C'était pas spécialement original parce qu'on ne disait rien sur rien. On recouvrait tout de silence, comme les meubles à la fin des vacances avec des draps blancs. Quand elle est morte en 2012, c'était 3 jours après la mort de Chris Marker, et le lundi d'après, le rover Curiosity s'est posé sur Mars. Quand elle est morte en 2012, j'ai compris qu'un jour j'allais devoir écrire sur elle. Beaucoup de temps a passé, Et puis un matin, sur une plage, j'ai imaginé une histoire de méduse, d'amitié entre deux garçons, de honte et de sable mouvant. Une histoire dont elle serait le golem. Je me suis dit que ce serait la meilleure manière de la présenter au monde et de donner aux gens envie d'en savoir plus sur elle.
C'était La Salle des Machines, une émission de Mathias Sénard, assistée de Céline Leclerc, réalisée par Charlotte Roux, avec à la technique aujourd'hui Mathieu Tourin. Retrouvez les ouvrages de nos invités sur la page web de l'émission, sur franceculture.fr.